Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous, une heure d'info avec la rédaction de RTL, avec les journalistes, qu'ils soient à Paris ou en région. Une heure d'info, mais aussi de débat et je l'espère de bonne humeur avant de retrouver les auditeurs à 13h. Une heure d'info, tout d'abord donc avec Céline Landreau. Bonjour Céline.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, aujourd'hui, la rentrée. 12 millions d'élèves retrouvent leur bureau et leurs copains, ce qui ne gâte rien. Mais l'école est-elle menacée par une montée de l'islamisme? C'est en tout cas ce que dénonce un professeur dans un livre, Ces petits renoncements qui tuent. La journaliste qui a recueilli son témoignage sera avec nous à midi 10. Et maintenant, c'est moins 30. La ristourne sur le carburant passe à 30 centimes aujourd'hui. Et puis Serena Williams, sérénissime, la star du tennis, n'en finit plus de surprendre pour ses adieux.
RTL toujours plus proche de vous. Deux nouveaux rendez-vous d'ici votre journal de midi et demi. D'abord dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous.
Aujourd'hui, direction Marseille, puisqu'après Paris, Grenoble ou Strasbourg, la cité phocéenne met en place à son tour une ZFE, une zone à faible émission réservée aux véhicules les moins polluants, à vos vignettes. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et en ce jour de rentrée, à quoi on joue dans la cour de récré? Pour comprendre tout ce que vous raconteront vos enfants et petits-enfants en rentrant. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture de la mi-journée. Vous connaissiez le Seigneur des Anneaux? Eh bien voilà, les Anneaux de Pouvoir, c'est la série la plus chère de l'histoire. Amazon met un milliard de dollars sur la table pour remporter le match des plateformes.
La question du jour.
Sur RTL.fr, avez-vous toujours confiance en l'école de la République?
Et puis, tous ces sujets, vous pourrez les développer à partir de 13h avec les auditeurs. La rentrée des classes, la montée de l'islamisme à l'école, l'enquête qui a visé Richard Berry et qui est classée sans suite. Et puis, je l'ai dit, Catherine Deneuve qui a inauguré la Mostra de Venise. Elle a reçu un Lion d'or. Vous pourrez nous dire quel est votre film préféré de Catherine Deneuve.
Avant ça, un mot de la météo avec vous, Peggy, même si on vous retrouve à la fin du journal. Un indice tout de suite?
Bah oui, ce sera orageux, Céline, sur le nord-ouest, mais beau ailleurs.
Merci, Peggy. Météo complète, je le disais, à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Retour à l'école pour les quelques 12 millions d'élèves français. Après les profs hier, ce sont donc les enfants qui ont retrouvé leur cartable ce matin. Sans masque cette année, mais avec toujours une petite appréhension, surtout quand il s'agit d'un cap important comme l'entrée en CP. Marie Guerrier est allée assister à la rencontre entre une enseignante et ses nouveaux élèves du cours préparatoire de l'école Jacques Brel. C'est à Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Et vous allez l'entendre, il y a de l'émotion dans l'air.
Bonjour à tous, je vous invite à rentrer, allez dans la cour de récréation, il y a les maîtresses qui vous attendent là-bas.
Alors moi je m'appelle Pauline Amont et du coup je vais être ta maîtresse pour l'année de CP, ok? On va passer une super année tous les deux? Oui, je sens que ça va être une bonne année. Bonjour, Anaïs est chez moi. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ta maîtresse.
Oui. T'as passé de bonnes vacances? Super. On va apprendre plein de choses ensemble.
Elle était pressée d'entrer. Hier, elle a préparé ses affaires.
C'est bien. Ils sont entre timides et excités.
Ouais, c'est trop mignon. Elles tombent dans les bras l'une de l'autre.
Ah, c'est les copines, les retrouvailles. CP, oui. Oui, c'est une rentrée vachement importante. Ah, chérie. On va rentrer sans les parents. On fait les derniers bisous.
Vous avez filmé? Vous voulez garder ce moment-là en souvenir?
Oui. C'est important. Je ne pensais pas que j'allais être aimée à ce point-là, mais quand même.
Allez, on y va. Pharrell, tu viens, mon grand? Yvonne, vous vous rangez bien deux par deux, que je puisse vous compter, s'il vous plaît?
Vous vous connaissiez déjà avant, les filles?
Oui.
Ça vous rassure d'être toutes les deux dans la même classe?
Oui.
Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, toi, en CP?
Apprendre à lire, à écrire les prénoms de mes copains et copines en attaché, à faire plein de choses en CP.
À lire, à écrire, en attaché surtout. Reportage RTL signé Marie Guerrier.
Et à l'heure de la rentrée, justement, un enseignant dénonce la montée de l'islamisme à l'école.
Il se fait appeler Laurent Valogne, un pseudo puisqu'il préfère rester anonyme. Et il témoigne dans un livre intitulé « Ces petits renoncements qui tuent ». Nerissa et Mani, vous avez rencontré ce professeur de français. Il enseigne depuis plus de 20 ans dans un lycée de banlieue parisienne et il assure devoir faire face à une multiplication des atteintes à la laïcité.
Oui, selon ce professeur, le déclencheur du livre, l'électrochoc, c'est l'assassinat de Samuel Paty il y a 2 ans.
Aurait pu arriver à beaucoup de professeurs qui sont confrontés, comme l'a été Samuel Paty, à des problématiques qui sont de plus en plus récurrentes. De ce que je vis depuis que j'enseigne, c'est qu'il y a une recrudescence de la montée du fait religieux. Bon, ça m'est effectivement arrivé de demander à des jeunes filles de se dévoiler alors qu'on faisait une sortie et elles ont refusé. J'en avais parlé au chef d'établissement qui est venu et qui a parlé avec ces jeunes filles. Il n'y a pas eu de sanction ou quoi que ce soit. Je me souviens par exemple, il y a 3 ans, donc un début de dispute entre 2 élèves parce que l'une mangeait des bonbons à la gélatine de porc en plein ramadan et il a fallu que je sépare les 2 élèves.
Pour cette histoire de bonbons, il décide de ne pas faire de signalement, comme c'est le cas aussi de nombreux professeurs. Impossible donc de chiffrer ces atteintes à la laïcité qui ne sont pas toujours prises au sérieux par la direction.
Vous avez des chefs d'établissement qui sont très frileux, d'autres qui vont prendre le taureau par les cornes, qui vont prendre les responsabilités. Et on a des outils. Et la question, c'est pourquoi ne les utilise-t-on pas ? La France est un pays laïque. Et dans l'espace scolaire, la laïcité, elle doit être respectée, tout simplement. Donc, il faut assumer les valeurs et les principes de la République.
Le professeur ajoute qu'il fera tout cette année encore pour appliquer le principe de laïcité dans ses classes.
Nerissa Emani pour RTL.
Et nous reviendrons sur ce sujet juste après votre journal à 12h10. Nous serons avec la co-auteure de l'ouvrage, Karine Azopardi, la journaliste qui a recueilli le témoignage de ce professeur qui, vous l'avez entendu, préfère garder l'anonymat. L'affaire met en émoi la ville de Saint-Étienne depuis plusieurs jours. Ce matin, Gaël Perdriot dénonce les accusations ignobles.
Le maire est accusé de chantage aggravé par son ex-premier adjoint après des révélations de Mediapart sur une manipulation présumée à la sextape. Gilles Artigue dit avoir été piégé, filmé à son insu avec un escorte gay. Vidéo qui aurait ensuite été utilisée pour faire pression sur lui. Des faits que conteste très fermement Gaël Perdriot.
Ces accusations sont ignobles. On a bafoué mon honneur, celui de ma famille. Tout cela est faux. À ce stade, je n'ai pas encore été reçu par la police et je souhaite réserver mes propos à la justice. Bien sûr que je comprends l'émoi, parce que présenté comme c'est présenté, c'est évidemment scandaleux. Et je peux comprendre aussi que Gilles, sa famille, soit meurtri par ces révélations qui sont de l'ordre de l'intime. Et il suffit de se mettre à sa place pour comprendre que, encore une fois, révélation sur votre intimité, de votre vie privée, c'est forcément choquant.
Vous l'avez appelé ? Vous avez pris contact avec lui ?
Je n'en dirai pas plus, monsieur.
Gaël Perdriot, le maire de Saint-Étienne, au micro-RTL de Bertrand Frachon. L'enquête qui visait l'acteur Richard Berryer, accusé d'inceste par sa fille Colline, a été classée sans suite pour cause de prescription. L'affaire n'a donc pas été jugée sur le fond. Les faits dénoncés sont trop anciens. La remise à la pompe sur les carburants est passée à 30 centimes le litre aujourd'hui. Remise décidée par le gouvernement, elle était de 18 centimes jusque-là. Est-ce utile et qui paiera la facture à l'arrivée ? On en parle plus longuement à 12h40. Un temps bloqué, le convoi des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu reprendre la route vers la centrale de Zaporijjia, centrale aujourd'hui occupée par les Russes et dont un réacteur a dû être arrêté en raison des bombardements. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron réunit, lui, la conférence des ambassadeurs, près de 600 diplomates, dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est l'occasion pour le chef de l'État de prôner la poursuite de son dialogue avec Vladimir Poutine plus de 6 mois après le début de la guerre en Ukraine. Si la diplomatie était de parler avec des gens avec lesquels nous étions d'accord, nous aurons besoin de beaucoup moins de moyens, a déclaré le chef de l'État. Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui parle à la Russie, a-t-il ajouté.
Tout à fait autre chose avec le tennis. Et à l'heure de ses adieux, rien ne semble pouvoir arrêter Serena Williams.
Oui, la Lyonne ne cesse de rugir à l'US Open et sa tournée d'adieu se prolonge. Isabelle Langer, bonjour.
Bonjour.
Puisque la nuit dernière, celle qui a déjà remporté 23 grands chelems a renvoyé la numéro 2 mondiale chez elle.
Et avec la manière, s'il vous plaît. Elle a encore réussi à hausser son niveau de jeu. Pourtant, après sa défaite 6-0 contre la Britannique Raducanu il y a 2 semaines à Cincinnati, personne n'imaginait un tel scénario à l'US Open. D'ailleurs, lundi, à l'issue de son premier match, les organisateurs avaient tout prévu et ils lui ont rendu un hommage comme si elle avait perdu. Rebelote hier soir, si ce n'est que la reine Serena a décidé de prolonger cette dernière danse. Portée par une foule en délire, ils étaient encore plus de 29 000 hier en tribune, dont plusieurs personnalités comme Tiger Woods. L'américaine et sa tenue inspirée des robes de patineuse avec une jupette composée de 6 volants comme ses 6 titres à Flushing Meadow et surtout ses 400 diamants incrustés dans son bandeau, sur sa robe et sur ses chaussures. Serena Williams donc, se sent pousser des ailes, comme elle le disait sur le court après sa victoire. J'adore ce public. Oh mon Dieu, c'est vraiment fantastique. Et quand l'ancienne joueuse Marie-Jo Fernandez, qui l'interviewait après sa victoire, lui a demandé « Est-ce que vous êtes surprise de votre niveau ?» Écoutez ce qu'elle a répondu. « Je suis suis juste Serena. Tout est
en
dit,
toute humilité. Merci beaucoup Isabelle Langer. Le championnat d'Europe de basket débute lui ce soir pour les Bleus. L'équipe de France commence par un gros morceau, hein, l'Allemagne qui jouera à domicile. Le coup d'envoi c'est à 20h30. La météo. Avec vous, Peggy Broche, on vous retrouve. Bon, c'est pas terrible dans le Nord-Ouest, mais ailleurs, non, c'est mieux. Hein.
Exactement. Alors, c'est vrai que ça se gâte, Céline, cet après-midi, entre le Nord-Limousin, le Poitou, en remontant vers la Bretagne jusqu'en Normandie, avec des averses orageuses attendues, tout comme sur le relief des Pyrénées et entre les Alpes du Sud et la Corse. Et ces orages vont même se décaler dans la nuit vers l'Est et gagner la Picardie, la région parisienne en soirée, le Sud-Ouest également. Partout ailleurs, vous l'avez dit, cet après-midi, un temps sec, sous un ciel variable, entre nuages et éclaircies, ça reste très agréable. Et des températures quasi stationnaire, de 22 à Cherbourg, à 33 à Marseille et Perpignan, 30 à Agen, Limoges et Lyon, 29 à Bourges et Grenoble, 28 à Paris et Rouen, 26 à Nantes et Nancy et 25 à Biarritz.
Merci Peggy.
C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison. RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et chaque jour, à l'info au plus près de vous, avec nos correspondants qui quadrillent la France aujourd'hui, Capo au Sud, direction Marseille, où l'on vous retrouve. Etienne Baudu, bonjour.
Bonjour Céline et Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Marseille qui rejoint aujourd'hui plusieurs grandes villes comme Paris, Strasbourg ou Toulouse en mettant en place une zone à faible émission, ZFE. Bon d'abord, Etienne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique ce sigle ZFE?
Alors, la création de cette zone à faible émission est avant tout destinée à lutter contre la pollution atmosphérique occasionnée par les automobiles. Cette zone correspond au Grand Marseille, au grand centre-ville de Marseille, et concerne plus de 300 000 habitants et dans laquelle vont être donc interdits progressivement tous les véhicules les plus polluants.
Justement, Étienne, quels sont les véhicules concernés aujourd'hui ?
Alors, ce sont les véhicules les plus anciens et les plus polluants qui possèdent une vignette critère 5. Vous savez, ces vignettes de couleurs différentes qui classent votre véhicule en fonction de sa première immatriculation. Il y a 5 types de vignettes et c'est donc la moins vertueuse, hein, la grise, qui est concernée par les véhicules, pour les véhicules diesel immatriculés avant 2001.
Voilà, on commence par les véhicules les plus polluants, c'est ça?
Oui, tout à fait. On commence gentiment, on va dire, hein, car ces véhicules critères 5 à Marseille, ils ne représentent que 2% du parc automobile. Mais évidemment, les propriétaires de ces vieilles guimbardes font déjà grise mine. Belker est propriétaire d'une voiture diesel de 1999. Il est, on va dire, dépité en apprenant qu'il lui faudrait sans doute changer de voiture.
Je pense pas, je vais changer tout de suite. Pas pour l'instant, en tout cas, j'ai pas les moyens d'acheter une hybride, elle sera à plus de 10 000 euros.
Voire même une voiture neuve, quoi.
Ouais, voire une voiture neuve. J'espère pas me faire contrôler alors. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, il y aurait beaucoup de gens à sanctionner.
Étienne, les gens les plus défavorisés sont souvent les victimes de ces décisions, il faut le rappeler, parce que cet automobiliste le disait d'ailleurs et fort bien. Mais ceux qui sont encore dans les normes, comment réagissent-ils ?
Eh bien pour les autres, en fait, c'est un répit. Hein. Nina, par exemple, elle roule dans une petite voiture citadine d'occasion. Elle a, elle, déjà collé sa vignette critère 3.
Moi, je suis à 3, donc je suis à la limite de ce qui est possible encore. Concrètement, c'est quelque chose de bien pour l'environnement, la pollution. Après, c'est sûr que pour les personnes qui ont certains impératifs, par exemple, moi, j'ai un métier qui fait que je dois rentrer tard. Il n'y a plus de transport quand je sors du travail. Donc, si j'avais une voiture qui ne me permettait pas d'aller au travail, en centre-ville, du coup, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Et on entend Nina, Étienne, cette zone à faible émission, elle va évoluer rapidement.
Et oui, dès l'an prochain, les véhicules critères 4 vont être interdits. Et en 2024, c'est demain, les critères 3, comme la voiture de Nina. Et là, c'est une autre paire de manches. Beaucoup plus d'automobilistes vont être concernés à Marseille. Et déjà, on s'inquiète. Écoutez Michel, il est garagiste boulevard national dans le quartier populaire de la Belle de Mai, au cœur de la zone.
Ah, sur le boulevard, on n'a aucun critère 1, critère 2. Hein. C'est que des anciennes autos. Hein.
Et vous, des clients que vous connaissez, qui ont ces vieilles voitures, ils ont les moyens de la réparer comme ça, mais moyen d'en acheter?
Non, ils n'ont pas. Je suis sûr que non. J'ai des clients qui me règlent en 3 fois les réparations, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, chez les voitures, c'est quasiment impossible pour eux. Non, non, pour une ville comme Marseille, c'est pas au point, quoi.
Et en attendant, Étienne, comment vont être contrôlés les véhicules?
Alors écoutez, pas de panique pour l'instant. Déjà aujourd'hui, je n'ai pas vu de contrôle. On va faire d'abord dans la pédagogie, m'a-t-on dit à la préfecture de police et à la métropole. Les premiers PV pourraient tomber en octobre prochain, dans un mois, entre 68 et 135 euros l'amende. Enfin, en tout cas, en résumé, une seule certitude, et vous l'aurez compris, cette zone à faible émission ne sera pas simple à mettre en place ici à Marseille.
Merci beaucoup Étienne Baudu.
Vous le savez, chaque jour à 12h15 et 12h40 ou 12h45, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on va revenir sur ces petits renoncements. C'est le titre de ce livre qui fait l'événement dans lequel un professeur dénonce la montée de l'islamisme à l'école. Nous serons avec la journaliste Karine Azoupardi qui a recueilli son témoignage. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Praud, RTL Midi.
De ce que je vis depuis que j'enseigne, c'est qu'il y a une recrudescence de la montée du fait religieux. La France est un pays laïque. Et dans l'espace scolaire, la laïcité, elle doit être respectée. On a des outils, pourquoi ne les utilise-t-on pas ?
La voix transformée, vous l'aurez compris, de celui qui se fait appeler Laurent Valogne, ce professeur qui veut rester anonyme mais qui dénonce la montée de l'islamisme qu'il constate dans son lycée de banlieue parisienne. Un témoignage à lire dans un livre, « Ces petits renoncements qui tuent », livre coécrit avec vous, Karine Azoupardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez donc recueilli le témoignage de ce professeur. Qui le dit, l'électrochoc pour lui, ce fut la mort de Samuel Paty. Ça a été la genèse de ce livre ou...
Oui, tout à fait. Ça a été un choc pour tous les deux, pour des raisons différentes. Lui, évidemment, parce qu'il se sentait une proximité d'âme, avec ce collègue, hein, même s'il ne le connaissait pas. Et moi, étant victime d'attentats, évidemment, à chaque attentat, je pense très fort aux familles et à ce qu'elles vivent. Donc, ça a été un électrochoc qui nous a fait beaucoup discuter pendant des mois. Et puis, on est arrivé à cette envie d'écrire. D'écrire un livre qui n'était pas une commande, hein, qui était, c'est quelque chose qu'on a fait spontanément et puis qui est resté un peu dans les tiroirs pendant quelques mois et à l'occasion du procès, du procès des attentats du 13 novembre auquel j'ai assisté, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoute, si t'as quelque chose, il faudrait le sortir quand même, il y a urgence. Voilà.
Vous dites électrochoc, mais c'est vrai que ces choses-là, on le savait depuis de nombreuses années, le rapport Aubin date de 2004, je crois, simplement beaucoup prêchaient dans le désert, il n'était pas entendu. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est différent ?
Non, j'ai toujours l'impression de prêcher un peu dans le désert aussi, mais nous, moi j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir. Et puis quand on parle d'électrochoc à propos de la mort de Samuel Paty, on oublie trop souvent, et c'est pour ça que j'aimerais le rappeler ici chez vous, Jonathan Sandler, qui était quand même un professeur aussi, qui a été tué par Mohamed Merah dans l'école aux Arts et Torah à Toulouse. Donc Samuel Paty n'était pas le premier. On dit oui, c'est une première, ça va tout changer, etc. On avait déjà dit ça avec Charlie, on a dit ça le 13 novembre, on dit ça à chaque fois et on s'habitue finalement.
Ce qui est difficile, c'est de mesurer l'influence ou l'importance du nombre de cas. Est-ce que c'est un élève par classe ? Est-ce que c'est 5 élèves par classe ? Est-ce que c'est 15 élèves ? Est-ce que c'est majoritaire dans certaines classes ? C'est ça qui est difficile de mesurer.
Alors ça, je pense que nous, on n'est pas là pour ça. On était là pour un témoignage local. Il ne faut pas croire que c'est une majorité, parce que la majorité, encore une fois, est silencieuse, d'après ce que me décrit Laurent, que ce soit dans la classe ou que ce soit dans la salle des profs. Donc ce sont des petits éléments, des petits signaux que l'on raconte.
Mais pourquoi vous dites petits ? Ensuite, si... Parce que ce n'est pas petit, par exemple, lorsqu'on dit on ne peut pas traiter la Shoah. Ce n'est pas un petit signal.
Oui, c'est un signal qui fait tilt, mais il y a aussi y a en face des petits renoncements de gens qui disent bon, faut les comprendre et puis on va biaiser, on va pas aborder cette thématique du programme parce que pour des raisons XY, on n'a pas envie de braquer une classe. Mais si vous voulez des chiffres, les chiffres évidemment sont déjà là depuis longtemps. Moi, j'avais pas lu de livre, pour tout vous dire, parce que je suis pas du tout spécialiste de l'éducation, j'avais pas lu de livre ou quoi que ce soit avant d'écrire ce témoignage. Je pensais qu'il fallait l'écrire parce que déjà, c'était une thérapie pour nous. Et puis, je les ai lus ensuite. Et évidemment, il y a le rapport Aubin en 2004. Il y avait les territoires perdus de la République,
bien sûr,
polémique un peu avant. Il y a tous les livres de Yanis Roder, que je salue.
Et qui sort d'ailleurs un nouveau livre. Il a publié La jeunesse française.
Exactement, mais tous ces livres sont attaqués, sont discrédités, voilà, à chaque fois c'est, on nous dit c'est l'extrême droite qui parle, vous allez faire monter l'extrême droite, enfin voilà. Nous, c'est pas notre propos, c'est de dire à un moment donné, il faut arrêter de se censurer.
Voilà, vous, c'est
on est sur une ligne de crête. On est sur une ligne de crête. Je tiens à le préciser, contre tous les extrêmes, mais ça n'empêche pas qu'il faut dire les choses. Il faut nommer le problème, il faut dire les choses.
Alors justement, pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent, c'est un témoignage, ce livre. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, un fait, par exemple, auquel ce professeur, depuis plus de 20 ans, a été confronté ?
Il y a eu, par exemple, cette sortie scolaire qu'il me racontait, où deux élèves, au demeurant, c'était l'une des deux élèves était l'une de ses meilleures élèves, cela n'empêche pas, qui voulait venir voiler. Or, c'était une sortie dans l'un des plus beaux lieux de la capitale, et donc, mais une sortie scolaire, c'est l'école qui se détériorise. Et c'est exactement voilà, vous êtes meilleur que moi. Et donc les mêmes règles s'appliquent à l'extérieur qu'à l'intérieur du lycée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les mères d'élèves. Il faut être très précis là-dessus.
C'est ça, les élèves y sont soumis, pas les parents.
Exactement.
Merci Karina Zobardi, vous êtes journaliste et je rappelle que votre parcours est singulier parce que votre compagnon a été tué au Bataclan et vous décrivez pour lui, j'ai l'envie de dire, la présence d'une idéologie mortifère qui gagne insidieusement du terrain dans les salles de classe et qui, si l'on n'agit pas rapidement, sapera les bases de nos sociétés ouvertes et tolérantes, écrivez-vous. Il est 12h22, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Je ne suis pas certain que les filles jouent encore à la marelle dans les cours d'école, mais je pense que les garçons continuent de jouer au football à la récréation. RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait notre quotidien. Rendez-vous dans lequel on parle consommation, santé, famille, entre autres, mais aussi en ce jour de rentrée.
Dans les cours d'école, il existe des jeux, c'est comme ça, insensibles aux effets de mode. La marelle, bien sûr, en fait partie, mais le classique des classiques, c'est sans conteste le jeu de billes.
Extrait d'un reportage des années 90, mais aujourd'hui, alors, bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
On joue plus à la marelle,
Armelle. Ah si, hein, toujours. Hein. Ah bon, les petites filles jouent toujours à la marelle, mais oui.
Mais pas que. Vous vous êtes posé cette question cruciale qui hante Pascal. Que font les enfants aujourd'hui dans les cours de récréation ?
La récréation, d'abord, ça dure combien de temps généralement ? C'est 15 minutes.
Bah écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les années passent et se ressemblent. Parce que les billes connaissent un succès fou.
Les billes ?
Oui, ce sont les stars de la récré. Les premières traces de billes remontent à l'Antiquité grecque, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Elles plaisent parce qu'elles tiennent dans la poche. Elles sont abordables entre 1 euro et 3 euros le filet de 20 billes. On en trouve aussi en coffret. Et il se vendra en septembre 3 millions de billes.
3 millions ?
Et il y a un boulet également.
Oui, c'est ça.
On prend un boulet pour taper la bille.
C'est ça. Alors, comme quand on était petit, ce qui fait la valeur, c'est la matière de la bille, hein, la terre cuite, ou les plus prisées, les billes en verre, les agates, l'œil de chat. Mais il y a aussi, effectivement, la taille. On a la bille normale et le calot et le boulet ou le boulard. Selon les régions, le vocabulaire change. Alors, quand on a un beau calot à mettre en jeu, on peut gagner un maximum de billes. Pour les règles, il y en a plein. Le pot, la poursuite, il y a même des circuits avec du sable et de la terre et il faut être le plus rapide pour en faire le tour. La raison du succès des billes, c'est Adam qui entre aujourd'hui en CE1 avec ses billes dans la poche qui nous l'explique.
Bah, les billes, ce que j'aime bien, c'est que quand l'autre y perd, bah, tu prends sa bille.
C'était ça, vous aussi, Pascal ? Votre objectif, c'est de piquer les billes des
moi,
autres ?
Moi, je jouais pas aux billes, je jouais au football. On jouait au foot à la récré.
Ah bah toujours, hein. Mais il y a d'autres tendances, quand même.
Alors, c'est quoi l'autre tendance, précisément, cette année, Armelle ? Les Pokémon ?
Oui, Pokémon qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Et Pikachu, c'est un phénomène qui dure. C'est un raz-de-marée. En septembre, il se vendra encore près d'un million de cartes à jouer et à collectionner. Cela coûte 7 euros le paquet. Ce sont des cartes de combat. Il y a des attaques, des défenses, des cartes force, des cartes points de vie. Des cartes rares, et justement, comme il y a des cartes rares, on peut se les échanger. C'est ce que nous confie Chloé. Ça devient un objet de valorisation dans la cour de récré. Elle entre aujourd'hui en 6e, mais elle y a beaucoup joué en primaire dans la cour de récré.
J'avais eu beaucoup de cartes Pokémon. Je ne savais pas comment les jouer, mais j'adorais les collectionner. Je les montrais à mes amis pour montrer que j'avais énormément de cartes et que j'étais hyper populaire et que grâce à mes cartes, j'étais la meilleure. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. J'avais juste des cartes GX, des X. C'était cool, hein, mais on échangeait avec les copains.
Bon, il est possible que vous m'ayez perdu. Et je sais que Céline, qui était une élève extrêmement studieuse...
Bah, figurez-vous qu'il y a un jeu de société pour expliquer les règles aux parents et aux plus jeunes, parce qu'on n'y comprend rien.
On va vous fournir ça, Pascal.
Céline, qui était très studieuse, elle révisait durant la récréation ses cours de latin et de grec.
Surtout
merci,
au CP. Surtout
merci
au CP.
Armel. C'était RTL Midi Votre Vie, l'info qui fait votre quotidien. L'info qui continue dans un instant avec le journal de 12h30. A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL.
Il est 12h31. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi nouvelle formule. Car désormais, votre rendez-vous d'information de la mi-journée commence dès 12h. Mais pour l'heure, il est donc 12h30.
RTL Midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro.
Et à midi et demi, c'est donc votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
Et maintenant, la remise, c'est moins 30. 30 centimes de moins pour le litre de carburant. La ristourne augmente. Les prix à la pompe baissent. Mais quel coût pour l'État? Et est-ce vraiment opportun en pleine transition énergétique? On fait le point après le journal. L'imam Hassan Iqiyoussem, toujours introuvable. Et puis eux ont troqué les tongs pour les cartables. Retour à l'école aujourd'hui pour les écoliers, collégiens et lycéens qui ont commencé à retrouver leurs professeurs sans masque cette année. Votre rendez-vous culture, LVT midi à 12h50. On parlera des anneaux de pouvoir, la série télé la plus chère de l'histoire. La question du jour sur RTL.fr, avez-vous toujours confiance en l'école de la République?
Et on pourrait évoquer tous ces sujets avec les auditeurs, la rentrée des classes, le salafisme à l'école, les ristournes à la pompe. Catherine Deneuve, on en parlera tout à l'heure en fin de cette édition. Et puis Richard Berry, l'enquête visant Richard Berry a été classée sans suite pour prescription.
La météo à la fin du journal, mais déjà Peggy Broche, un indice pour l'après-midi.
Un temps sec sur les trois quarts du pays, Céline, mais orageux sur le nord-ouest.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Vous avez peut-être eu une bonne surprise si vous avez fait le plein ce matin, un peu comme pour la deuxième démarque des soldes. Maintenant, c'est moins 30. La remise sur le carburant passe de 18 à 30 centimes le litre. C'est même 50 dans les stations totales, puisque le groupe pétrolier fait lui aussi un geste. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Vous avez fait pour RTL un petit tour des stations dans les Hauts-de-Seine ce matin, et vous avez pu constater que dans certaines, on est passé sous la barre symbolique de l'€50.
Oui, c'est vrai. Et ces prix, les automobilistes que j'ai croisés dans la matinée n'imaginaient jamais les revoir un jour. D'ailleurs, la plupart avaient bien préparé leur coup pour faire le plein de bon matin.
Le prix est intéressant, mais on l'avait anticipé.
Là, vous avez calculé combien ça peut vous faire économiser par mois?
Non, ça va faire 60€ par mois à peu près.
Ouais, moi, ça me fait plaisir déjà. Ouais. La dernière fois que je suis partie au mois de février-mars, elle était à 2,12€. Ça vaut le coup, là.
Ça vaut le coup, ça je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui. Même avec un litre de diesel à 1,70€, Sébastien est comblé.
Il n'y a même pas une semaine, elle était à plus de 2€, donc ça fait une jolie somme. Hein, sur un plein, une voiture qui fait presque 50 litres.
Voilà, 85€ là.
Ouais, 85, ouais.
D'habitude c'était plus proche de 100, ouais. C'est pas mal.
Enfin, ça n'a pas valeur d'enquête, hein, disons-le, mais je suis passé devant quelques stations. Leclerc qui semble s'être plus ou moins aligné sur les prix de Total, avec un litre d'essence autour de 1,50€, 1,60€.
Merci beaucoup Vincent Derosier.
Alors une bonne nouvelle pour l'automobiliste, oui, mais pour les finances de l'État, est-ce cohérent avec la volonté d'abandonner les véhicules thermiques? On en parle dans une seconde à 12h40.
Et puis toujours à propos de transport, on apprend aujourd'hui que la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, va quitter ses fonctions fin septembre pour raisons personnelles, a fait savoir le gouvernement.
Les vacances sont bel et bien terminées pour 12 millions d'élèves, ils ont fait leur rentrée ce matin.
Rentrée marquée, on le sait, par une crise de recrutement, mais le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, l'a promis avant-hier sur RTL. Il y a bien ce matin un professeur dans chaque classe. Le ministre de l'Éducation qui est ce matin avec Elisabeth Borne, la première ministre, dans un collège à RN dans la Somme, où tout le monde est bien effectivement au rendez-vous, Arthur Pereira.
Oui, 300 collégiens et aucun professeur ne manque à l'appel ici dans cet établissement rural. Visite surprise d'Elisabeth Borne ce matin pour ces collégiens qui ne s'y attendaient pas du tout.
Non, pas du tout. À la base, on ne nous avait pas dit qu'elle venait. C'était la grande surprise de ce matin.
Vous l'avez appris ce matin?
Bah, oui.
Oui, c'est toujours assez impressionnant d'avoir la première ministre devant nous. Et du coup, c'était bien de la rencontrer.
Au programme, visite guidée de l'établissement par 3 élèves. Pas facile ce qu'on vous demande de faire, a ironisé la Première ministre. Première étape chez les 6e, interrogation surprise pour les 2 ministres. C'est dur d'être ministre, demandent les nouveaux collégiens. Après les élèves, vient notre tour. Et lorsqu'on demande au ministre de l'Éducation nationale s'il y a bien un professeur devant chaque classe en ce jour de rentrée, eh bien la réponse est assez vaste.
Nous allons faire le point à la fin de la journée et puis ce week-end pour pouvoir présenter une synthèse de la rentrée en début de semaine. Mais les remontées que nous avons de la part des différents rectorats nous laissent penser que la rentrée se passe dans de bonnes conditions.
Avant de faire le bilan, passage par la cantine scolaire, au menu cordon bleu pâte et glace en dessert, puis direction Amiens avec une visite d'une école primaire.
Merci beaucoup Arthur Pereira. Hier, Marie Guérin, vous avez parlé de cordon bleu frites aussi pour la rentrée. C'est décidément des menus attrayants.
RTL Midi. L'imam Hassan Iqiyoussen, toujours introuvable, mais est-il seulement recherché ?
On peut s'interroger, hein, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, laisse entendre qu'il aurait pu fuir en Belgique. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Et s'il est effectivement en Belgique, ce sont les Belges qu'il cherche aujourd'hui ?
Eh bien, il ne cherche pas encore officiellement. Nous avons contacté le parquet fédéral belge, le ministère de la Justice en France, et personne n'est, à l'heure où je vous parle, avisé d'un mandat d'arrêt européen. Hier encore, la porte-parole du ministère de la Justice belge, cette fois, indiquait qu'Hassan Iqiyoussen ne figurait pas dans la base de données des personnes recherchées. Mais tout ça n'est sans doute qu'une question de temps. Quand les autorités belges seront officiellement saisies, la coopération judiciaire entre les deux pays fonctionnera.
Mais en revanche, s'il venait à être interpellé en France, par exemple, lors d'un contrôle routier banal, là, il serait arrêté.
Absolument. Au moindre contrôle, au moindre contact avec un service de police ou de gendarmerie, son identité matchera au fichier des personnes recherchées. Il sera immédiatement interpellé, puis placé en centre de rétention administrative. Reste que le Maroc a suspendu le laissez-passer consulaire nécessaire à l'arrivée d'Hassan Iqiyoussen sur son sol. Là, on entre dans le champ de la diplomatie. Le ministre de l'Intérieur disait ce matin que cela ferait l'objet de discussions.
Convenant qu'il y a peu de chances qu'il revienne en France.
Ah bah c'est pas dans son intérêt d'y revenir.
En ce 1er septembre, terminé l'anonymat pour les donneurs de gamètes.
Oui, le droit d'accès aux origines entre en vigueur pour les personnes nées d'un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, de futurs enfants qui pourront donc choisir à leur majorité de découvrir, s'ils le souhaitent, le nom de leur géniteur. Mais ça change aussi pour les enfants déjà nés grâce à un don. Ils peuvent aussi désormais faire une demande pour accéder à leurs origines, Virginie Garin.
Voilà, une demande à une commission qui va faire les recherches pour eux. Alors si le dossier existe toujours, si rien n'a été perdu, si le donneur est encore vivant, eh bien cette commission va le contacter et lui demander s'il est d'accord pour qu'on donne son nom ou juste quelques éléments sur sa vie, sa région, son état de santé. Alors le donneur peut refuser, mais s'il accepte et si plusieurs de ses descendants ont fait la même démarche, il peut aussi les mettre en rapport. Alexandre Mercier préside l'association PM Anonyme. Il est né il y a 35 ans grâce à un don de sperme. Il espère ainsi retrouver ses demi-frères et sœurs biologiques.
Quand on est conçu par don, il y a deux grandes quêtes. Savoir qui est son donneur, sa donneuse. Et il y a aussi savoir combien de personnes nous sommes issues du même donneur. Est-ce qu'on a des traits de ressemblance, que ce soit physique, dans le caractère ? Est-ce que ce lien génétique fait qu'on a des points communs ou ce genre de choses ? Nous n'avons pas été élevés ensemble. Et voilà, ce ne sont pas des inconnus lambda, ce sont des gens avec qui on partage pas mal d'ADN en commun. Donc voilà, il y a une curiosité à ce niveau-là.
Alors aujourd'hui, le nombre d'enfants issus d'un même donneur est limité à 10, mais avant 94, il n'y avait pas vraiment de limite. Donc Alexandre se dit qu'il a peut-être de nombreux demi-frères et sœurs qu'il espère connaître un jour.
Merci beaucoup Virginie Garin. Nous devons nous préparer à une guerre longue, prévient Emmanuel Macron, qui s'exprimait ce matin devant les ambassadeurs. Emmanuel Macron qui assume de poursuivre le dialogue avec Moscou.
Ça n'étonnera personne, la Chine dénonce le rapport publié par les Nations Unies sur la situation des Ouïghours.
L'ONU dénonce effectivement des violations répétées des droits de l'homme par le pouvoir de Pékin contre la minorité musulmane de la province du Xinjiang au nord-ouest du pays, Émilie Beaujard.
Oui, et l'ONU va même plus loin, elle évoque la possibilité de crimes contre l'humanité à l'encontre des Ouïghours, détentions arbitraires, tortures, stérilisations forcées, autant de témoignages compilés dans un rapport de 46 pages. Une enquête menée menée depuis 2018 et qui se base sur le travail de chercheurs, des images satellites, de témoignages. L'ONU décrit un schéma de détention arbitraire à grande échelle. 10 à 20% de la population ouïghour serait passée par des camps d'internement, officiellement pour les déradicaliser, selon les termes utilisés par Pékin. Il est aussi question de travail forcé dans des usines chinoises et de limitation des naissances. Pékin a tout fait pour bloquer la parution de ce rapport et parle aujourd'hui de mensonges et dénonce un outil politique contre la Chine.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
Le foot à présent, il est venu avec le t-shirt blanc de l'Olympique de Marseille. Il reste un peu plus de 10 heures au club pour sortir leur carnet de chèques. Le mercato s'achève ce soir. Bonjour monsieur Sanfourche.
Bonjour Philippe. En période de sobriété recommandée partout, Philippe, est-ce qu'on doit s'attendre à quelques gros coups de dernière minute?
Ben oui, le phénomène est connu. L'effervescence des dernières heures s'empare des directeurs sportifs. La peur de manquer, de rater la bonne affaire. On achète parfois à tout prix. C'est le panic buy, comme on dit en Angleterre.
Panic l'achat. Buy.
Oui, l'achat impulsif de dernière minute.
Ça, faut que vous me l'expliquiez.
Mais c'est ça.
Il n'est pas bilingue, Pascal, hein, il faut
le
lui dire.
Panic buy. Le PSG, par exemple, a eu tout l'été pour enrôler un défenseur supplémentaire. La cible s'appelle Milan Skriniar à l'Inter Milan.
Inconnu.
Et Christophe Galtier, encore hier soir après le match à Toulouse, mettait la pression sur ses dirigeants.
Je l'espère, ça serait mieux avec les enchaînements de matchs. La fatigue, les suspensions, les blessures. Est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas.
Alors, vous ne connaissez pas Milan Skriniar, mais pourtant, il pourrait coûter 60, voire 70 millions d'euros dans cette dernière ligne droite. Mais la plus folle rumeur, elle concerne Neymar. Chelsea, les Anglais de Chelsea pourraient dégainer une offre colossale pour tenter d'attirer le Brésilien. Peu de chances toutefois qu'elle aboutisse. Le PSG reste
à
l'écoute.
Mais il est à vendre, Neymar ?
Mais le PSG a tenté en début d'été de sonder un petit peu le marché.
Et ça vaut combien, Neymar ?
Chelsea.
100 millions ?
Ça n'a pas de prix. C'est le prix, c'est comme vous, si vous voulez acheter, je ne sais pas, un tableau de maître ou une voiture de collection, c'est le prix que vous voudrez bien mettre. On gardera un œil également sur l'OM qui va tenter jusqu'au dernier moment d'enrôler un milieu offensif. Ce serait tout simplement la 12e arrivée de l'été sur la Canebière.
Merci beaucoup, Philippe. La météo, maintenant, on vous retrouve Peggy Broche, bon, vaut mieux éviter le quart nord-ouest. Hein.
Exactement, vous avez tout compris. Entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers le Poitou, là, les averses orageuses se mettent en place cet après-midi. Un peu d'instabilité orageuse également sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central et entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Mais partout ailleurs, un temps calme et sec avec de belles éclaircies, malgré quelques passages nuageux mais inoffensifs. Les températures quasi stationnaires jusqu'à 33 à Nîmes, 31 à Toulouse, 30 à Montélimar, 29 à Cognac, 28 à Paris, 27 à Lille, 25 à Caen et 22 à Brest.
Merci Peggy.
Dans un instant, 30 centimes de moins depuis ce matin sur le carburant. Un cadeau pour les automobilistes, mais à quel prix? On en parle tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Praud. RTL Midi, Pascal Praud et Céline Landreau.
Mon plein, il me coûte très cher, il me coûte plus de 100 € si je fais le plein. Là, aujourd'hui, je vais mettre que 15 euros.
Là, le prix vous dissuade pas d'aller un peu plus, là? On est sous les 1,5,
oui, là. Ah ben, j'avais pas vu du tout. Moi, j'étais resté sur des 1,90, 1,80. Bah ouais, bah écoutez, c'est un bon point.
Eh oui, c'est moins cher, moins 30 centimes à la pompe depuis ce matin. Le gouvernement augmente sa ristourne pour accompagner les automobilistes. Le litre passe donc à 30 centimes de moins. Pardon, c'était pas clair, je vais me reprendre. La ristourne passe de 18 à 30 centimes. Voilà, c'est plus simple comme ça. Mais à quel coût est-ce vraiment opportun en pleine transition écologique? Pour en parler, on accueille Christophe Bourroux, spécialiste automobile chez nous à RTL. Bonjour.
Bonjour.
Et Agnès Verdier-Molinet, directrice de la fondation IFRAP, auteur de Le vrai état de la France, aux éditions de l'Observatoire. D'abord, Agnès Verdier-Molinet, combien ça coûte aux finances de l'État, tout ça?
Tout ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et on est autour de 7,6 milliards depuis le début des mesures de remise de prix sur les carburants. 7,6 milliards, c'est qu'une partie, hein, parce que la totalité des mesures qui ont été prises, c'est 40 milliards sur l'impact sur l'ensemble des mesures pour faire face à l'inflation, et puis c'est encore plus avec toutes les aides sociales qu'on a rajoutées, etc. On est en train de dépenser presque 60 milliards de plus que ce qui était prévu quand ça a été voté l'année dernière sur l'ensemble des dépenses publiques. Donc Vous voyez qu'en termes de dépenses, on est dans une fuite en avant qui est hyper préoccupante.
C'est entendu, mais convenez que les gens qui nous écoutent doivent se dire 30 centimes de moins à la pompe, c'est quand même agréable, c'est moins cher et ça me permettra peut-être de faire autre chose avec cet argent économisé, Agnès Verdier-Molinier.
Bien sûr, je les comprends et chacun voit un peu midi à sa porte, sauf que pour financer toutes ces dépenses supplémentaires, il faut des impôts supplémentaires. Et c'est là, Pascal, que ça se corse. Parce que en face des 59 milliards de dépenses...
Il n'y aura pas d'impôts pour les
ménages. Oui, mais en réalité, Pascal, on est déjà en train de payer énormément d'impôts supplémentaires, puisque par rapport à ce qui était prévu pour 2022, c'est 57 milliards de recettes de prélèvements obligatoires en plus. Et rien que pour la TVA, par exemple, rien que celle qui est collectée par l'État, pas par l'ensemble, les collectivités locales, etc. Mais rien que par l'État, on passe de 44 milliards à 52 milliards depuis l'année dernière, à fin juin cette année. Donc vous voyez que on est sur des niveaux de recettes grâce à l'inflation qui, pour l'État, sont gigantesques, très, très importantes. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de faire des chèques aux Français alors qu'on pourrait baisser leurs impôts, et notamment les impôts qui pèsent sur l'énergie? Parce que là, la ristourne de 30 centimes, elle n'est pas pérenne. Alors, en plus, ça va baisser derrière.
Ça va effectivement passer à 10 en fin d'année. Ça, c'est pour l'aspect économique. Il y a aussi peut-être un paradoxe idéologique, c'est que dans le même temps, l'État demande aux Français d'abandonner progressivement les véhicules thermiques. C'est pas contre-productif, du coup, de subventionner comme ça le carburant? Je me tourne vers vous, Christophe Gros.
Ah bah carrément, parce qu'il y a quand même 39 millions de véhicules thermiques en France, et on veut les voir disparaître de la circulation, mais là, on fait tout l'inverse. C'est pas demain.
Et après-demain.
Il y a un effet pervers à cela, c'est qu'aujourd'hui, on se tourne vers les véhicules les plus âgés, c'est-à-dire de plus de 15 ans. Jamais il s'est vendu autant de voitures d'occasion anciennes, ce qui fait que c'est des voitures très polluantes, et le parc automobile, tenez-vous bien, aujourd'hui, en France, a 11 ans. 11 ans en moyenne. C'est-à-dire que les Français gardent de plus en plus leurs voitures, ce que ça coûte de plus en plus cher. C'est des véhicules de plus en plus âgés, donc qui polluent plus. Donc c'est l'effet complètement inverse de ce qui est recherché. Et malheureusement, ça risque de perdurer.
L'électrique n'est pas au point, il faut le dire et le redire. L'électrique n'est pas au point.
Alors l'électrique est au point, mais c'est la distribution de l'électrique. C'est les bornes qui sont pour l'instant insuffisantes en France.
Vous ne faites pas un Paris.
Non, on l'avait démontré sur un Paris Saint-Malo.
En 5 heures
Les voitures sont au point, mais il faut pouvoir se recharger, c'est ça, Pascal, le principal problème de ces véhicules électriques, parce qu'elles sont tout à fait viables et tout à fait pour les automobilistes, mais il faut se recharger, et c'est ça le problème. Et là, le prix de l'électricité, les Français se disent, oula, ça va flamber, donc ce qui se passe pour l'instant, ben, on n'achète pas, on attend, quoi.
Oui, et les Français qui sont comme Pascal, a priori pas complètement convaincus encore par la voiture électrique. Merci beaucoup Christophe Bourreau, merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir répondu à nos questions.
On va parler culture dans une seconde, et notamment de Catherine Deneuve qui a été honorée hier à Venise. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Et tous les jours vers 12h50, nous accueillerons l'équipe de Laissez-vous tenter avec aujourd'hui Émeric Partenot et Laurent Marsic. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous vouliez nous parler de cette série qui fait l'événement, la plus chère de l'histoire, Les Anneaux de Pouvoir. Alors d'abord, de quoi on parle? C'est quoi l'histoire, Émeric?
Alors, The Rings of Power, ou Les Anneaux de Pouvoir en bon français, c'est ce que l'on appelle un prequel dans le jargon des séries, une histoire qui vient raconter ce qu'il s'est passé avant l'histoire que l'on connaît. Ici, ce qu'il s'est passé des siècles, des millénaires avant la trilogie du Seigneur des Anneaux.
Alors, je ne suis pas sûr que Pascal soit fan du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez nous rappeler ce qui se passait justement dans le Seigneur des Anneaux?
Oui, dans le Seigneur des Anneaux, on suivait les aventures d'un jeune hobbit, Frodon, un petit homme aux pieds velus, en gros l'anglais moyen de la campagne, c'est-à-dire quelqu'un qui aime bien manger, bien boire et surtout qu'on lui fiche la paix. Alors, malgré sa nature de hobbit, Frodon devait détruire un anneau magique malfaisant dans un volcan, l'occasion d'un long et pénible périple dans un monde imaginé par l'écrivain britannique Tolkien, avec des elfes, des nains, des sorciers et aussi des arbres qui parlent.
Donc le préquel, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, exactement. Dans cette nouvelle série, on va découvrir un peu le passé du méchant qui a créé cet anneau.
Oui, le fameux Seigneur des Anneaux, dont il est question dans le titre de la saga. C'est Sauron, le grand méchant, un sorcier qui a mal tourné. L'histoire raconte comment il a berné tous les peuples de la Terre du Milieu en leur offrant des bagues magiques. Mais ce qu'il avait oublié de dire en faisant ses cadeaux, c'est qu'il avait gardé une bague pour lui, pour manipuler tout le monde, l'anneau que Frodon cherche à détruire dans la trilogie. Mmh. Alors, dans la série d'Amazon, Les Anneaux de Pouvoir, on nous propose de découvrir la création de ces fameux anneaux magiques. Les fans des films de Peter Jackson et des livres redécouvriront bien sûr quelques personnages, puisque certains sont immortels, c'est pratique. Hein. Donc même si la série se passe 3000 ans avant, on va quand même retrouver des personnages cultes, hein, dont il y a Sauron, bien sûr, le grand méchant, mais aussi des elfes, dont la plus connue, Galadriel, qui était au cinéma jouée par Cate Blanchett. Côté télé, c'est une nouvelle actrice, Morfydd Clark, qui va s'y coller.
Elle, on la connaît pas encore.
Non, pas du tout. Question casting, la série nous propose beaucoup de nouveaux visages, hein, des acteurs qui pourraient bien tenir là le grand rôle de leur carrière. À l'écran, on a droit à une grande aventure épique, toujours dans des décors naturels sublimes de la Nouvelle-Zélande. L'objectif est naturellement d'attirer un nouveau public, puis aussi les millions de gens qui ont vu et revu la trilogie de Peter Jackson depuis 20 ans. Je suis totalement dans le public cible. Et puis la série d'Amazon peut aussi compter sur une horde de fans de livres qui, eux, vont découvrir une période qu'ils n'avaient encore jamais vue à l'écran.
Alors, on dit que c'est une série à 1 milliard. Ça se voit, j'imagine.
Oui, alors j'ai trouvé que c'était une série très cinématographique. Mmh. On oublie complètement qu'on regarde une série télé.
Il y a la combien d'épisodes ?
8 pour la saison 1. Chaque épisode dure environ une heure. Donc
il y aura 5 saisons.
5 saisons pour l'instant.
Il y aura 40 épisodes.
C'est ça. Donc des heures.
Et le milliard, c'est pour 8 ou pour 40 ?
Le milliard, c'est pour le développement de la saison. Ouais, exactement. Donc pour l'instant, on a quelques centaines de millions qui étaient dépensés pour la saison 1. Ça se voit à l'écran. On va retrouver une saison 1 qui peut durer presque autant de temps que la trilogie de Peter Jackson. Les musiques symphoniques sont incroyables. Il y a un vrai souffle épique dans la réalisation et les décors sont grandioses. Ça va certainement relancer le tourisme en Nouvelle-Zélande. Les effets spéciaux, parce que quand même, il faut reconstituer des villes imaginaires entières. C'est probablement ce qu'on a jamais vu de mieux à la télévision aujourd'hui, je trouve.
Je vous sens circonspect, Laurent.
Emmerich, il l'a vu sur grand écran. Moi, je l'ai regardé sur une télévision, comme les millions de gens qui regarderont ça sur une télévision. J'ai pas vu le milliard dans les deux premiers épisodes qu'ils nous ont montré. Sincèrement, c'est l'exemple qu'on peut prendre, mais vous regardez un James Bond, la scène d'ouverture, elle est toujours incroyable. Mmh. On voit James Bond qui saute d'immeuble en immeuble avec des explosions dans tous les sens, etc. Là, ça s'ouvre sur la scène d'une elfe qui plie un papier, fait un bateau, le pose dans l'eau et il va dans la rivière. J'en ai pas pris plein la tête, si vous voulez,
Pas de cœur, il y a trop d'émotions.
Les décors naturels sont effectivement magnifiques, mais ça, pour le coup, ils sont pas créés, ils existaient déjà. Il y a effectivement quelques décors. On voit notamment la ville des nains qui a été sans doute refaite avec des effets spéciaux, etc. J'ai pas senti le million dedans.
C'est la musique qu'on entend là.
Voilà, la musique est jolie, elle est omniprésente. Hein, la musique.
Ouais, c'est la musique originale, celle-là. Hein.
C'est la nouvelle musique qui a été faite en effet par
la musique dans les deux épisodes.
Elle est magnifique,
c'est très présente.
Ouais. Donc les mélomanes seront ravis. Mais cette histoire de milliards dont on parle beaucoup, Laurent, c'est l'illustration d'une lutte fratricide entre les plateformes.
C'est une histoire d'ego entre les plateformes, de vie et de survie aussi. Déjà, ce qu'on peut raconter, c'est que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a tapé plus fort que tout le monde. En fait, il a posé 250 millions de dollars sur la table pour acheter les droits de l'œuvre de Tolkien. Parce que cette série-là, c'est pas l'adaptation d'un bouquin, c'est l'adaptation de l'œuvre, en fait. C'est
tous les brouillons,
etc. Voilà, tout ce que Tolkien avait pu inventer. Il a inventé un monde, des langues, des mythologies, etc. Il avait créé un monde. Donc il a posé 250 millions de dollars sur la table pour racheter ça. Netflix voulait le faire, ils n'ont pas réussi à l'avoir. C'est aussi un redoutable calcul financier quand même. Parce que même si lui dit « je suis un grand fan de Tolkien et je voulais le faire parce que voilà, il fallait rendre hommage à tout ça, à toute cette série », il faut voir ça d'abord comme une guerre sans merci que se livrent les plateformes, qui jouent leur vie et leur survie dans cette histoire. Il y aura un gagnant, hein. Netflix est en train de perdre des abonnés, Disney en gagne un peu, Amazon a besoin de pouvoir en avoir. Et en fait, s'ils ont fait tout ça, Amazon, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir une série marqueur, c'est-à-dire d'avoir ce que Netflix a pu avoir avec The Crown.
J'ai compris. Pour conclure, c'est disponible
demain.
Demain.
Ouais. 2 septembre.
Merci beaucoup à tous les deux. Anneaux de pouvoir, donc ce sera sur Amazon. Pour finir, restez avec nous, une petite devinette maintenant. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ?
Io amo sempre il cinema molto, veramente molto. E io vado al cinema e io anche oggi ho avuto delle de l'enthousiasme.
Comment on dit ?
La grande
commande en italien.
Catherine Deneuve, effectivement, qui a reçu un Lion d'or hier à la Mostra de Venise, récompensée pour l'ensemble de sa carrière, la star de 78 ans, si on peut le dire, qui arborait un petit drapeau ukrainien pour l'occasion.
quel est votre film préféré de Catherine Deneuve? Il y en a tant.
Question difficile.
Il y a Podane pour les enfants, il y a le dernier
métro, que.
Il y a Indochine, il y a des.
Les demoiselles, évidemment.
Les demoiselles de Rochefort. C'est magnifique. Donc on posera la question aux auditeurs. Il est 12h59, le rappel des titres dans quelques instants, et les auditeurs ensuite.
RTL Midi.